Alors qu'on soit chrétien ou pas, on est tous différents, je pense que vous êtes d'accord. Et même chez les chrétiens, il y a des optimistes et des pessimistes. Et évidemment, il y a la pire des catégories, la troisième catégorie, c'est les soi-disant autoproclamés réalistes. Les réalistes, ce sont souvent des pessimistes qui se croient un petit peu supérieurs aux optimistes, mais qui ne veulent pas être traités de pessimistes. Eh bien, moi, je suis un optimiste réaliste. J'ai créé ma propre catégorie. Pourtant, quand on regarde autour de nous, la situation mondiale, difficile d'être optimiste. Les conflits en Ukraine, en Israël, Palestine, au Nigeria, les dictatures en Corée du Nord, en Chine, dans beaucoup d'autres pays dont on n'entend pas parler. La pauvreté universelle, les catastrophes naturelles liées à la dégradation de l'environnement, le cancer, Alzheimer, les nouvelles épidémies, le terrorisme. On a l'impression que la liste ne va jamais s'arrêter. Et maintenant, les élections, la situation politique en France. Comment peut-on rester optimiste? Alors, la réponse est très simple. On ne peut pas. Je ne me fais malheureusement aucune illusion sur l'état de notre société, sur le cœur humain et sur les motivations des hommes politiques. À plusieurs égards, nous vivons une époque extrêmement sombre. Alors, est-elle plus sombre qu'il y a 80 ans? Peut-être pas. Plus sombre qu'il y a 40 ans? Certainement. Alors comment peut-on rester optimiste malgré les ténèbres environnantes? La réponse, comme toujours, c'est Jésus. Et dans le prologue de Jean, Jésus n'est pas décrit simplement comme le Logos, comme on a vu la semaine dernière, il est décrit comme la lumière et la vie. Ça tombe bien parce qu'on a besoin de lumière en ce moment, vous ne trouvez pas? Alors, je vais lire quelques versets de ce premier chapitre de Jean. Donc, on continue notre série et je vous encourage à nouveau à lire l'évangile de Jean pendant vos semaines, votre semaine. Et je vais lire juste pour l'instant les versets 4 et 5. « En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Ou une autre traduction, « les ténèbres ne l'ont pas vaincu. » Alors, nous avons vu la semaine dernière que le Logos, la parole, était présent dès la création du monde. Et que ce que Dieu crée en premier, c'est la lumière. Alors, même si je ne suis pas très doué en science, j'ai cru comprendre que sans lumière, il n'y a pas de vie. Eh bien, c'est vrai aussi au sens métaphorique. Au sens imagé. S'il n'y a pas la lumière dans votre vie, vous n'avez pas la vie. En tout cas, vous n'avez pas la vie en abondance. Comme Jésus en parle, comme Jésus l'a décrit dans Jean chapitre 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » La vie, c'est pas mal! La vie en abondance, c'est beaucoup mieux. La vie en abondance sur cette terre, c'est pas mal. La vie en abondance pour l'éternité, c'est encore mieux. La lumière et les ténèbres ne sont pas simplement des opposés. Non, les ténèbres ou l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Et je le répète, sans lumière, il n'y a pas de vie. Comme au premier jour de la création. Pourtant, quand Jean parle des ténèbres, et il va en parler à plusieurs reprises dans son évangile, il ne parle pas que d'absence de lumière, il parle aussi du mal. Dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et vous connaissez la suite ?« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il aura la lumière de la vie. Et dans Jean 12, 35, la lumière, c'est toujours Jésus qui parle, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Hein, il parle de lui. Marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Alors ce matin, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question difficile. Vous savez que j'aime bien poser des questions. J'ai envie de vous demander si vous marchez dans la lumière ou dans les ténèbres. Est-ce que vous avez accepté cette lumière qu'est Jésus ou est-ce que vous l'avez rejetée? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous êtes des enfants de lumière? Alors pour la plupart, la réponse est peut-être évidente. Vous dites c'est évident si je suis là. Mais restons vigilants. La course n'est pas terminée. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous dit le psalmiste. Mais est-ce que vous laissez toujours la parole de Dieu vous guider, vous éclairer, ou est-ce que vous la laissez un petit peu de côté? Pendant que je préparais cette prédication, hier, un de mes meilleurs amis m'a envoyé une photo de lui à Paris dans une manifestation anti-RN. Moi aussi, j'en ai fait des manifs dans ma jeunesse. Hein, ça commence à dater. C'est formateur, c'est même essentiel de s'exprimer, de manifester quand on pense que son pays va dans la mauvaise direction. Alors, si vous venez dans cette église depuis longtemps, vous savez qu'on ne fait pas de politique. On parle très rarement de politique dans cette église et c'est une bonne chose. C'est très bien comme ça. Mais je peux vous dire une chose, et rien que d'y penser, ça me touche. Je serais extrêmement triste si le RN accédait au pouvoir en France. Je suis français, blanc, donc a priori, je risque pas grand-chose. Mais quand je pense à tous mes amis noirs, quand je pense à tous nos amis immigrés, comme Behrouz et Saïd, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont fui la persécution dans leur pays en Iran, je suis triste. J'ai peur pour eux. Pourtant, quand j'ai reçu cette photo de mon ami, qui est noir, hein, ben ma réaction, elle était un petit peu différente. Je me suis dit, ok, tu manifestes, hein, avec des centaines de milliers de gens partout en France, et c'est bien. Mais où est-ce que tu seras demain? Combien de ces manifestants seront à l'église ce matin? Probablement pas plus d'une poignée. Alors, ce n'est pas parce qu'ils manifestent. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens en France. Et cet ami que j'ai rencontré au GBU, eh bien, il a tourné le dos à la lumière qu'il avait pourtant acceptée dans sa jeunesse. Et si on m'avait dit à l'époque, un jour cet ami ne sera plus chrétien, j'aurais dit, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai prié avec lui, j'ai chanté avec lui, j'ai fait des nuits de prière avec lui. Et comme je vous le dis souvent, c'est tellement facile de s'éloigner de Dieu. On n'a rien à faire pour s'éloigner de Dieu. Ça se fait naturellement. Par contre, pour rester proche de Dieu, nous devons entretenir notre relation avec lui, comme on l'a vu la semaine dernière, un Dieu de relation. Cela m'amène à mon deuxième point, les versets 9 à 12. Verset 9, celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors, quand j'étais petit, on utilisait beaucoup plus la traduction Louis II. Et ce verset se lit comme ça. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Alors, je savais qu'on parlait de Jésus, mais je ne comprenais pas pourquoi on disait « elle ». Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi on parlait des chiens. Elle est venue chez les siens. Mais j'ai eu la confirmation de quelque chose que je savais déjà, c'est que nous sommes une minorité. Déjà à l'époque de Jésus, ceux qui le suivaient étaient une minorité. Quand on connaît Jésus, quand on connaît la Bible, quand on a une relation avec Jésus, cela nous paraît tellement évident. C'est presque inconcevable pour nous de ne pas être chrétiens. Et pourtant, nombreux sont ceux qui l'ont rejeté, beaucoup plus nombreux, aussi bien lorsqu'il était vivant qu'aujourd'hui. Le monde ne l'a pas reconnu. Le monde a rejeté son Créateur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui l'ont accueilli sont devenus enfants de Dieu. Waouh ! C'est pas donné à tout le monde, d'être enfant de Dieu. Eh bien si, justement. Si. C'est donné à tout le monde. Il suffit de croire. Ou plutôt, il suffit d'accepter et de recevoir la lumière. Et pour croire, nous avons besoin d'entendre la vérité. Nous avons besoin de témoins. Et c'est mon troisième point. Jean, comme il le dit à la fin de son évangile, écrit pour que l'on croie que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, et pour qu'on ait la vie. Or, le premier témoin ici, c'est Jean-Baptiste. Verset 8, « Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. » Il accepte sa mission et il reconnaît que Jésus était là avant lui, alors qu'il est plus vieux que Jésus, et que lui-même a commencé son ministère avant Jésus. Pourtant, il dit, « Il était là avant moi. » Alors, nous avons plusieurs niveaux de témoignage ici. On a Jean, l'évangéliste, le disciple. Ce n'est pas le même que Jean-Baptiste. Ils ont le même prénom, c'est embêtant, mais c'est comme ça. On a donc Jean, le disciple, l'évangéliste, qui écrit l'évangile, qui rend témoignage de Jean-Baptiste, qui rend témoignage de Jésus, qui lui-même rend témoignage du Père. Et nous, qui lisons ces témoignages, 2000 ans plus tard, nous qui avons accepté la lumière, nous devons, comme Jean-Baptiste, être des témoins de la lumière qui brille en nous. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Tout d'abord en vivant dans la lumière et non pas dans les ténèbres. En obéissant à sa parole, en aimant Dieu, en aimant son prochain et en obéissant à ses commandements. Et c'est ainsi que nous brillerons également. Alors pas comme le Père ou le Fils, pas comme des soleils, mais plutôt comme des lunes qui reflètent la lumière du soleil. Et vous avez déjà vu une pleine lune dans une nuit noire. Alors, il n'y en a pas beaucoup des nuits noires sans nuages. À Plougonvelin, il y en a un petit peu plus, mais à Brest, bon. Mais vous avez déjà vu quand même une lune dans une nuit complètement noire et elle illumine, elle brille. Alors, je suis désolé de vous embêter, mais est-ce que vous brillez ? Est-ce que vous brillez ? Est-ce que nous brillons individuellement et en tant qu'Église ? Et si nous brillons, est-ce que nous brillons assez ? Ou est-ce qu'on pourrait pas briller un petit peu plus ? Est-ce que nous proclamons publiquement notre foi ou est-ce que nous la gardons pour nous, par peur, par honte ou pour quelque raison que ce soit ? Alors rappelez-vous, quand je vous pose ces questions, pas de culpabilisation, ce n'est pas le but, juste une remise en question. ne nous contentons pas de la vie. Ayons la vie en abondance. Le dernier point qui est essentiel se trouve dans les versets 14 à 18. Alors c'est le dernier point, mais c'est le plus long. Verset 14. « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Hein, » ce dont a parlé Max Lucado dans son livre. « La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alors Jean, à ce moment de son prologue, verset 14, il réutilise le terme « logos ». Et il le fait dans une affirmation des plus choquantes. Le logos, donc la parole, s'est incarné. Le logos s'est fait homme. Jésus, le logos créateur, est maintenant un homme. Et comme nous le verrons dans les Actes des Apôtres, il est remonté au ciel en tant qu'homme. Aujourd'hui, Jésus siège à la droite de Dieu en tant qu'homme. Voici la révélation suprême et ultime. Pour connaître Dieu, il ne suffit pas de connaître les Écritures. Pour avoir une relation avec le Dieu créateur, il faut passer par le Fils, le Logos en chair et en os. Celui qui acceptera de mettre sa chair et ses os sur une croix pour prendre notre condamnation sur lui. D'ailleurs, la lumière dont Jean parle, ce n'est pas que la lumière de la création. C'est aussi la lumière du salut en Jésus-Christ, hein, afin que vous ayez la vie. Le Logos créateur a marché sur cette terre en tant qu'homme. Il a rencontré des hommes et des femmes. Et ceux qui ont accepté de le suivre et de lui faire confiance ont vu leur vie complètement transformée. Quand Jean dit « il a vécu parmi nous », il utilise une expression qui signifie « demeurer dans une tente ». Et ce n'est pas un hasard parce qu'il fait référence à Exode 33 et 34 que Max Lucado cite. Lorsque Dieu était dans la nuée, vous vous rappelez, il était dans la nuit, il était dans le nuage. Et le peuple d'Israël le suivait. Il était dans la nuée et il demeurait au milieu du peuple d'Israël dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était la tente de la rencontre. Vous voyez, la tente demeurait. Jésus a demeuré parmi nous. Puis Moïse demande à Dieu de contempler sa gloire. Et Dieu lui répond dans Exode 33, verset 19, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Puis Dieu explique à Moïse qu'il ne peut pas contempler sa gloire. Hein? Il peut le voir que de dos, car nul ne peut le voir et demeurer en vie. Et juste après l'épisode du veau d'or, hein, le peuple d'Israël, guidé par son frère Aaron, désobéit et se fait une image de Dieu en se taillant un veau en or, parce qu'ils veulent voir, Dieu. Donc ils se font un veau d'or pour représenter Dieu. Et bien juste après cet épisode, juste après cette désobéissance, je ne sais pas si vous vous rappelez, Moïse il a jeté les tablettes de la loi, les deux tablettes avec les 10 commandements. Eh bien, Moïse remonte sur le mont Sinaï avec ses deux tablettes de pierre qui sont pas encore rien dessus, elles sont vierges. Et Dieu va à nouveau graver sa loi. Et dans Exode 34, verset 5, voilà ce que dit Dieu. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là, près de lui, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Alors, vous dites, mais je croyais qu'il prêchait sur Jean, là. Pourquoi est-ce que je vous lis ces versets du livre de l'Exode ? Parce que Jean utilise les mêmes mots par lesquels Dieu se présente à Moïse. Plénitude de grâce et de vérité. Et juste avant, Jean affirme que nous avons contemplé sa gloire. Contrairement à l'Ancien Testament, maintenant, on peut contempler sa gloire sans mourir. Au contraire, c'est sa gloire, sa vie, sa mort et sa résurrection qui nous donne la vie. Mais ce qui est encore plus intéressant dans tout ça, c'est le terme « grâce » que j'ai évoqué brièvement la semaine dernière en citant le verset 17. « En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais juste une petite phrase la semaine dernière où j'ai dit que le logos avait remplacé le némos, la loi. Pourquoi ? Il ne faut plus obéir aux 10 commandements que Dieu a donnés à travers Moïse ? Bien sûr que si. Mais la différence, c'est que notre salut ne dépend plus de notre obéissance à ces commandements. Et heureusement, ce matin en venant, j'ai encore brisé la loi. J'ai grillé un feu rouge sciemment. J'ai brisé la loi. J'en suis pas fier, je vous le dis par honnêteté. Vous vous dites, c'est pas grand-chose. Ben, quand même, j'ai brisé la loi, donc techniquement, hop, c'est fini pour moi. D'accord ? Si on veut obtenir le salut par les œuvres, c'est-à-dire par l'obéissance à la loi, ben c'est terminé, c'est déjà terminé. Notre salut dépend de la grâce de Dieu. Pour que, comme Paul plus tard, nous puissions dire « Je ne me vante que de la croix, pas de mes œuvres, pas parce que je respecte à la lettre la loi. » Je ne me vante que de la croix. En d'autres termes, si je suis sauvé, ce n'est pas grâce à mes propres œuvres, car je suis incapable de respecter la loi à la lettre. Je suis sauvé par le sang de l'agneau immolé. On l'a chanté. Jésus, l'agneau de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Ce n'est pas en lisant ma Bible tous les jours et en priant que je suis sauvé. Ce n'est pas en allant à l'église tous les dimanches, en servant d'une façon ou d'une autre, en donnant la dîme. Tiens, ça me fait penser, on n'a pas passé la corbeille. Donc ce n'est pas en donnant de l'argent dans la corbeille que vous êtes sauvé. Vous pouvez donner avec joie, si vous avez prévu de donner, sinon vous laissez passer, ce n'est pas un problème. Et je vous rappelle que vous pouvez donner aussi par virement. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Ce n'était pas prévu. Ce n'est pas en donnant la dîme qu'on est sauvé. Même si ces choses sont bonnes. Non, c'est en recevant sa grâce. C'est en laissant le logos demeurer en moi. Je suis la tente, T-E-N-T-E, où Jésus veut demeurer. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quand je dis « je », vous avez bien compris, ce n'est pas juste moi. J'espère que vous avez compris. Sinon, il faut qu'on parle. Dans le mot « demeure », il y a quelque chose de plus final que juste « habiter ». Un autre verset de Jésus, une autre citation, « Celui qui demeure en moi » garde mes commandements. Ça fait réfléchir. Jésus demeure en moi et je demeure en lui. Alors c'est vrai, contrairement à Jean et aux disciples, nous n'avons pas contemplé la gloire de Dieu. Nous n'avons pas vu Jésus face à face. Pas encore. J'ai hâte. C'est vrai, même si ça semble paradoxal, j'ai hâte. Mais nous l'avons rencontré, hein ? Une autre expression évangélique qui est devenue un cliché et qui est pourtant magnifique. J'ai rencontré Jésus. Hein, qu'est-ce qui a déjà dit ça ? J'ai rencontré Jésus ou j'ai rencontré Dieu. Bon, vous ne voulez pas lever le doigt, c'est pas grave. J'espère que vous l'avez rencontré. Je n'ai pas encore vu sa gloire, mais je l'ai rencontré. Est-ce que vous avez rencontré Jésus personnellement ? Et est-ce que vous marchez avec lui dans la lumière ? Vous vous rendez bien compte que ce sont deux choses différentes, hein ? Je crois que c'est Anne qui avait rencontré François Hollande dans un restaurant il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire qu'elle marche avec lui et qu'elle a une relation personnelle avec lui ? Je ne crois pas, non. Il faudra lui demander. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, rencontrer Dieu et marcher avec lui. Hein, on peut le rencontrer et dire non et s'en éloigner. Est-ce que mon ami dont je vous ai parlé, il n'avait pas rencontré Dieu ? Si, il l'a rencontré, j'en suis certain. Mais pour l'instant, il le renie. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi, malgré tout, malgré les circonstances actuelles, je suis optimiste, réaliste ? Malgré la souffrance, malgré la mort qui nous entoure. Alors, ce n'est pas parce que je crois en Macron ou en Bardella, hein, ou en Mélenchon ou en Ciotti. Non, je suis optimiste, réaliste parce que je crois en Jésus-Christ, le Logos, le Verbe incarné, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Ou plus exactement, pas parce que je crois, mais parce qu'il m'a accordé sa grâce. C'est lui qui a fait tout le travail, une fois de plus. Le travail d'amour en venant à notre rencontre, le travail de rédemption par son sacrifice et le travail de sanctification par son Saint-Esprit. 3 is the magic number. Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous la rejetez ? Est-ce que vous témoignez de cette lumière en marchant avec lui et en laissant la lumière qui est en vous, briller et resplendir autour de vous. Et finalement, le Logos s'est incarné en Jésus, plein de grâce et de vérité. Vivons-nous de cette grâce ou sommes-nous plus attachés à la loi ? Je vais prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père éternel, comme nous l'avons chanté, tout est accompli. C'est toi qui l'as dit, Jésus-Christ sur la croix. Tout est accompli. Tu as fait tout le travail. Tu es venu sur cette terre. Tu es venu nous chercher. Tu es venu à notre rencontre. Et Seigneur, nous pouvons t'accepter, nous pouvons te rejeter. Mais ça ne suffit pas de te rencontrer. Aide-nous à vivre dans la lumière et non dans les ténèbres. Aide-nous à changer de vie. Aide-nous à être transformés par toi, par ton esprit, jour après jour. Aide-nous à persévérer dans cette course, dans cette lutte quotidienne, avec ce soutien extraordinaire que nous avons en toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Amen.